Bonsoir, vous êtes bien sur le Libre Journal des Artisans, animé par Benoît Aguelon et assisté par Benoît Duchâtelet. Benoît Duchâtelet, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Benoît, bonsoir Florence.
Alors nous sommes en enregistrement, une journée avant la diffusion ce samedi, donc vous pouvez néanmoins nous laisser des messages, bien que ce soit pas en direct, et nous les lirons et les traiterons lors de la prochaine émission qui sera la semaine prochaine, vendredi 19h30 à 21h. Voilà, donc aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Florence-Anne Ambroselli de l'atelier de l'Enfant Jésus.
Bonsoir.
Bonsoir, et nous allons parler de parcours de vie autour de l'artisanat religieux, donc ce qui correspond en fait au fil rouge de notre émission qui travaille sur le beau, le bien et le vrai. Donc, qui est malmené aujourd'hui, mais dans lequel nous luttons avec Radio Courtoisie pour le remettre au centre du village, comme
exactement.
L'église.
Exactement. Ça, c'est un point commun avec vous, parce que vous faites pareil dans vos œuvres. Donc,
Exactement. C'est voilà. Mettre le beau, c'est même une priorité. C'est presque j'essaye de défendre avec ce que je suis parce que le beau, est-ce que c'est subjectif ou objectif, c'est ça, il faudrait voir hein,
mais qu'est-ce justement que ça vous allez pouvoir donner
c'est,
vous-même
qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas le beau, je pense que c'est la défense de ce qui célèbre la vie pour moi. Donc et par mon travail j'essaye de mettre en honneur et mettre en lumière tout ce qui célèbre la vie.
Alors vous êtes la mieux placée pour en parler. Quel est votre travail, Florence Anne? Qui êtes-vous? Peut-être que nos auditeurs, pour pouvoir installer un peu le sujet, pourquoi est-ce qu'on a eu le plaisir, effectivement, j'allais dire, de penser à vous et de vous accueillir? Parce
Merci.
Que pour nous, il y avait une vraie, voilà, une vraie cohérence. Vous cochiez de bien belles cases. Mais qui êtes-vous?
Merci. Alors, donc Florence Anne, je suis maman de 9 enfants.
De combien ?
9.
9. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et
9.
Belle-mère de... alors attendez, parce que mon mari aujourd'hui a 3 enfants, et j'ai un fiancé, il y a ma belle-fille se fiance, et le fils de mon mari est marié avec une charmante Andrea. Donc voilà, donc la famille s'agrandit. Ouais, c'est quand on en a jamais assez.
Alors, voilà. Effectivement, vous voilà. L'incarnez bien. Revenons dans tout ce détail. Alors, redites-nous plus précisément.
Alors, donc, maman de 9 enfants et puis fondatrice de l'atelier de l'Enfant Jésus, un atelier où, comme vous disiez tout à l'heure, où je fais de l'illustration religieuse et qui est plus de l'ordre de l'artisanat parce que je fais des choses très uniques. Et donc, pour toutes les cérémonies religieuses et de l'iconographie. Et après, j'ai développé, j'ai déployé avec savon, bougie, bracelet, enfin voilà.
On ne l'arrête plus.
Voilà. J'essaye en tout cas de mettre mon talent au service de ce qui m'anime.
Ouais. Et alors, l'artiste est nourri de tout son ADN. Vous, votre ADN est assez riche. La vie a été riche également. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours qui fait que, je ne sais pas si on peut le présenter ainsi, votre histoire de femme, de mère et d'artisan, parce que à quel moment est arrivé l'atelier, après quel, on peut aussi parler d'expérience, de résilience, vous pouvez y aller.
Oh, je peux, j'ai le quartier libre, merveilleux.
Exactement, vous êtes ici chez vous.
C'est un face-à-face où je dois... Non, mais comment vous raconter ça d'une manière assez simple? Alors moi, déjà, je suis l'aînée de 10 enfants. Donc j'ai des parents, j'allais dire, absolument merveilleux, héroïques, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement... C'est beau, les grandes familles. Donc j'ai la chance d'avoir été élevée dans une très grande famille. Mon père est lui-même 10e de 15, et ma maman était l'aînée de 5 enfants. Donc vous voyez, on était quand même... voilà, donc j'avais pas mal
de
grandes générations. J'ai de nombreux cousins germains. Moi, je suis la 31e sur plus de 100 cousins germains.
D'accord.
Donc première génération.
Première génération.
Et ensuite, après, il y a tout ce qui va derrière. Voilà. Dans la rue, t'entends, je me dis peut-être qu'il y a un cousin que je ne connais pas.
Mais il y a un humoriste qui fait ça.
Donc je crois, lorsqu'on a préparé l'émission, je crois que j'ai un camarade de bac qui est un de vos cousins.
Ah bah oui, voilà, exactement. Voilà. Donc il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah mais vous n'êtes pas de la famille ». C'est toujours soit un cousin, soit un frère, soit une sœur, soit un autre cousin. Enfin bon, bref.
Magnifique.
Donc ça, c'est une chance parce que du coup, c'est une chance dans la vie d'avoir autant de liens familiaux. Et j'avais des grands-parents incroyables qui nous ont vraiment éduqués. Alors, mon grand-père était artiste du côté de papa. Mon grand-père était artiste peintre, élève de Georges Desvalières. Et Georges Desvalières est un artiste peintre qui avait consacré tout son art au Sacré-Cœur. Et moi, je suis héritière de tout ça.
Alors, voilà. Du coup, je vais faire une petite incise avec un clin d'œil pour Sabrina et Steve Guinel.
Exactement, pour ce merveilleux documentaire et ce livre qui vient de sortir.
Que j'ai reçu cette semaine,
reçu,
absolument.
Voilà, Sacré-Cœur, dans lequel d'ailleurs vous trouverez un témoignage de mon frère, Maximien Ambroselli, qui lui est docteur en histoire de l'art et spécialisé dans les œuvres de Georges Desvalières. Un bel invité un jour, si vous voulez le recevoir,
pour parler de cette
cet héritage tant artistique et spirituel, parce que Georges Desvalières était un homme extrêmement profond et qui a eu une œuvre absolument fantastique.
Et je confesse de l'avoir découvert grâce à Sacré-Cœur des Guinel, et je suis tombé en admiration effectivement devant particulièrement un tableau, mais de ce Christian III un peu noir, parce qu'on est tout ça, on parle des années de la Première Guerre mondiale,
et, tout à fait, ouais.
Et une période évidemment lourde, et effectivement ce Sacré-Cœur est splendide. Je ne l'avais jamais vu et je comprends, enfin j'apprécie du coup l'origine historique.
Ouais. Et c'est touchant parce que quand on parle, on va parler un peu de résilience, de souffrance, d'épreuves dans la vie qui nous apportent aussi beaucoup de, finalement, comment on transforme les épreuves et les douleurs. Et mon arrière-grand-père Georges Desvalières, lui était déjà un artiste peintre mais qui n'était pas forcément consacré dans l'art religieux. Et en fait, il a perdu son fils lors de la Première Guerre mondiale et ça a été vraiment un choc extrêmement violent pour lui. Il s'appelait Daniel, assez jeune, à l'âge de 17-18 ans. Et en fait, mon grand-père, mon arrière-grand-père, lui, ça a transformé toute sa peinture. Et c'est comme ça qu'il a été amené à essayer d'exprimer son espérance face à cette si grande douleur et cette violence de la guerre et de toutes les épreuves qu'on pourrait vivre. Et son art est empreint de ça. C'est en même temps fort, souffrant, mais c'est plein de vie, c'est plein de force, voilà. Et ça, bon, papa Desvalières a su très bien c'est son histoire à lui. Moi, il a eu comme élève mon grand-père Gérard Ambroselli, qui lui est artiste peintre et sculpteur, que nous retrouvons aussi dans l'art sacré. Il a fait aussi beaucoup d'œuvres religieuses, mais aussi grand portraitiste, paysage, voilà. Et puis, il a eu ses nombreux enfants, 15, qui, dans ses enfants, il y a eu des artistes peintres, sculpteurs. J'ai un oncle, Pierre-Paul, qui est sculpteur aussi. Et des artistes peintres, architectes, enfin bref. Donc, du coup, tout ça pour dire que...
Parlons d'ADN.
Voilà, moi, je suis pétrie de tout ça. Et en fait, on pourrait se dire, voilà, c'est lourd, la charge, elle est lourde. Comment on émerge dans ce milieu très dense, très créatif, très joyeux, très familial.
Ayant pour autant également une neuf enfance qui, normalement, prend un temps certain au
quotidien. Et donc on se dit, bon, bah, faut qu'on arrive à sortir de tout ça. J'ai été très heureuse, j'ai eu une enfance très heureuse. Et donc, du coup, j'ai voulu, à mon tour, donner ce que j'ai reçu. J'essaye de donner tout ce que j'ai reçu. J'essaye de rendre hommage face à tout ce bel héritage par mon travail. Et donc, mes enfants sont arrivés. Donc, je me suis mariée avec le père de mes enfants. Et j'ai eu ces nombreux enfants. Et puis, j'exploite aujourd'hui, moi, par mon travail, tout ce bel héritage. En fait, j'exploite ce que j'ai reçu. Voilà. Et j'essaye d'apporter ma couleur. Voilà.
Alors ça, c'est la motivation. Chronologiquement, la première création date de quand ?
Alors en fait, j'ai eu un accident de voiture très très douloureux en 2004. Et à l'époque, j'avais déjà 4 jeunes enfants. Et en fait, j'avais une voiture, nous avions à l'époque une grosse voiture qu'on n'avait pas fini de régler. Et cet accident de voiture, j'ai fait des tonneaux et miraculeusement, je m'en suis sortie. Et à l'époque, j'en avais la responsabilité puisque le père de mes enfants me l'a demandé de devoir rembourser cette voiture. Alors ça paraît un peu étonnant.
Dit comme ça, c'est pas dans l'ordre des choses.
Ça paraît étonnant, mais en fait, le Seigneur a
se
saisi cette brèche, on va dire, a saisi cette faille douloureuse, ce coup d'épée pour me poser la question. Mais que sais-tu faire, Florence Anne? Et je me suis du coup posé la question avec mes 4 jeunes enfants. Et moi, j'avais à l'époque, 27 ans, 28 ans. Donc, j'étais assez jeune. Et je me dis, mais qu'est-ce que je sais faire? C'est vrai. Alors, je sais dessiner, puisque j'ai appris à dessiner. Non pas que j'avais pris des cours de peinture. J'avais fait un peu de cours de peinture à Boulogne-Billancourt, mais pas plus que ça. J'avais fait des études d'histoire de l'art, parce que nous, c'était plutôt c'était plutôt intellectuel. À la maison, c'était important de faire des études d'histoire de l'art. Et donc, du coup, je me suis interrogée. Et en m'interrogeant, je me souviens très bien d'avoir prié mon arrière-grand-père et de lui dire, mais en fait, j'aime dessiner. Il va falloir que je vais essayer de dessiner quelque chose. Et puis, il y avait un dessin que j'aimais beaucoup, que j'avais toujours sur moi. C'était l'enfant Jésus, roi d'amour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, d'Yvonne Aimée de Malétroit.
Ah bah, mère.
D'accord.
Mère Yvonne Aimée.
Bilocution.
Exactement.
Une cinquante classique.
Voilà.
Juste incroyable.
Incroyable. Et moi, je ne la connaissais pas du tout. Moi, j'aimais que le dessin. Je trouvais que le dessin était absolument délicieux, ravissant. Et à l'époque, moi, ce dessin, je ne l'avais pas en couleur. Je l'avais en noir et blanc, un peu sépia, couleur sépia. Et en fait, d'une manière très naïve, je me suis mise à copier ce dessin. Et je l'ai copié avec mes couleurs à moi, mes touches. Donc, il y a une espèce de ressemblance. On va dire, je m'en suis inspirée. Mais je ne l'ai pas copié comme
un
travail de copiste. Et en fait, en copiant cette image, un jour, lors d'une... j'avais copié cette image, mais pas plus que ça, voilà. Et un jour, je rencontre des personnes charmantes qui, lors d'un rassemblement de prières, on prie ensemble, ça tout, et on me dit, mais est-ce que vous connaissez Yvonne Aimée de Malétroit? Et moi, je ne connaissais pas Yvonne Aimée de Malétroit. On me dit, ah, mais vous devrez vous rapprocher d'elle. C'était une artiste, voilà. Et j'avais déjà pas mal d'enfants, j'avais pas le temps de regarder.
Des conseils, on en reçoit de temps en temps, mais voilà.
Oui. Sauf que 10 jours après, on me reconseille de nouveau de me rapprocher de cette femme. Et là, une fois, deux fois, je me dis quand même, ça vaut le coup que j'aille regarder. Et à l'époque, il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas la fibre, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai cherché sur Internet et ça a été très, très long. Ça apparaît sur mon écran d'ordinateur.
Comme une révélation.
C'est arrivé, ligne par ligne.
Comme un président de la République.
Voilà. Et je vois à ce moment-là, la première chose que je vois apparaître, c'est l'enfant Jésus, roi d'amour. En dessin, ce même dessin. Et là, j'ai été prise d'une culpabilité, je m'en souviens très très bien, je me suis mise à pleurer et je me suis dit, oh là là, le ciel me tombe dessus, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. J'ai copié, alors vous savez, pour les artistes, la copie,
c'est la mort.
Oui.
Alors, ça peut être un exercice. Un exercice pour s'améliorer. Et c'est un bel exercice, au contraire.
Ce n'est pas les bénédictins qui vont dire le contraire.
Non. Voilà, exactement. mais aussi, ça peut... ça n'a pas la même valeur. C'est-à-dire qu'on emprunte quelque chose, on se l'approprie. Et alors moi, la différence, c'est que je n'avais pas copié vraiment pareil. Ça m'a un peu sauvée vis-à-vis de mon confesseur. Et j'ai dit, mais j'ai fait un péché grave, j'ai copié quelque chose qui ne m'appartient pas. Et j'avais l'impression vraiment d'être une... Et à ce moment-là, je me souviens très bien de cette personne qui m'a dit, mais lis donc la vie d'Yvonne Aimée de Malétroit, et tu vas t'apercevoir peut-être qu'elle a peut-être effectivement quelque chose à te dire. Et donc, je me suis mise à m'intéresser, à lire. Et en fait, l'enfant Jésus, donc elle a eu une apparition de l'enfant Jésus. Alors, je suis incapable de vous redonner les dates exactes.
Il suffit de renvoyer au livre.
Voilà, exactement. J'ai peur de dire des bêtises. voilà. Et l'enfant Jésus lui a dit, mais dessine-moi, parce que mon image est trop désuète dans les temps que nous vivons. Et j'aimerais que cette image soit diffusée et que tu montres à quoi je ressens. Enfin, il n'existait plus de jolies images de l'enfant Jésus.
Un peu suspicieux ou un peu...
Voilà. Mmh. Et moi, très simplement, j'ai pris cette même phrase pour moi et j'ai entendu dans mon cœur, dessine-moi, en fait, et montre quelque chose de nouveau de mon regard. Voilà. Et je pense que c'est ça la richesse aussi d'un artiste. C'est qu'on participe on renouvelle. C'est cette phrase qui dit « je suis venue faire toute chose nouvelle ». Eh bien, un artiste, il est ça, je pense qu'il y a de ça chez un artiste. Je reviens, je réponds à cet appel, je viens toujours faire quelque chose de nouveau. Je participe à tout en étant fort de notre histoire, de ce qu'on a reçu, de notre enracinement. Et on vient y mettre sa patte, sa couleur, son charisme. Son
apport. Ça fonctionne si on prête l'oreille. Parce que sinon, on n'entend pas.
Oui, il faut être attentif. Et puis, effectivement, peut-être que le fait d'avoir fait des études d'histoire de l'art vous permet justement de vous raccrocher à une tradition. Vous avez une tradition familiale, oui. Il y a une tradition académique que vous maîtrisez, donc... c'est bien différent de l'art contemporain où on fait des événements, des manifestations ou des performances.
Des performances, ouais.
Des performances.
Ça peut être sur des ponts de Paris. Hein,
c'est ça. Ou sur l'Arc de Triomphe. Voilà. donc là, c'est quelque chose qui est. Vous êtes parti sur des bases solides. Donc vous avez une base familiale, traditionnelle, familiale solide.
Vous avez eu... en tout cas pour la partie artistique.
Oui. Voilà. Une foi qui a toujours existé, où il y a eu des questionnements, où il y a eu des doutes, parce que finalement, en fait, le doute aussi est créatif.
Complètement. Est-ce qu'on peut parler de doute ? Je dirais plutôt, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Ça, c'est le premier point. Je crois. Vraiment, je crois. En revanche, il m'a fallu me laisser aimer, je dirais plutôt ça. J'ai jamais douté que de cette présence, mais les épreuves, la vie m'a amené à me laisser regarder comme j'étais. Et avec mes failles, avec mes faiblesses et avec mes richesses et avec tout, effectivement, tout ce qui fait aujourd'hui d'où je viens, voilà. Et accepter et consentir à ce qui m'a été donné et à ce que j'ai dû traverser et à chaque fois rebondir pour essayer de donner le meilleur autant dans mon travail que dans ma vie de couple, que dans ma vie en tant que mère, en tant que femme et en tant que épouse. Et ça, c'est vraiment, ce sont pas que des mots parce que c'est très profond. Alors les doutes, c'est pour ça que je reviens un peu sur le mot doute. Moi, j'avais un désir profond. De revenir chaque fois à la source. Alors là, j'ai parlé vraiment de la foi, parce que j'ai cette foi, de revenir à Jésus de tout mon cœur, malgré de nombreuses épreuves. Vous savez, l'épreuve, la souffrance, parfois, elle est telle que prier, c'est plus possible, aimer, ça devient trop difficile, supporter devient insupportable, et on se dit, on ne va pas y arriver. Ça devient presque angoissant.
Bah parce qu'on est abîmé, donc ça abîme tout.
Voilà. Et donc parfois on a besoin, on va se mettre une carapace, on va se mettre une armure, on va se cacher, on va se maquiller. Enfin, voilà, on peut trouver plein de mots pour exprimer ça. Et moi, j'ai tenté avec tout ce que j'étais, avec beaucoup de pauvreté et de vulnérabilité. Je me suis mise à genoux, je me suis mise à terre et j'ai toujours cherché, malgré le fait que j'allais très mal, j'ai crié en fait. En fait, mon doute, c'était pas le doute, j'ai crié. En fait, j'ai crié, j'ai dit « sauve-moi ». Moi, je crois beaucoup à un Dieu qui sauve et à un Dieu qui est miséricorde. Et d'ailleurs, c'est tout le message de mon travail. Et c'est pour ça que c'est très beau que ça s'appelle... Parce que moi, je réponds à un appel. Je suis entrepreneuse, mais d'abord, je réponds avant tout un appel à cet enfant Jésus qui est dont la marraine de l'atelier est donc cette mère Yvonne Aimée de Malétroit. Et le message de l'enfant Jésus est très clair, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi et j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté ». Voilà. Et
merci
ça,
de le rappeler. Oui, oui.
C'est la miséricorde de Dieu est absolument infinie. Je crois que notre Dieu pardonne tout. J'en suis intimement, Mais c'est-à-dire que pour moi, c'est marqué au fer rouge. Donc, on peut avoir eu des épreuves, on peut avoir été victime, on peut être... Il y a des personnes qui sont effectivement, qui ont des vies épouvantables, et d'autres qui ont été victimes de choses absolument atroces. Et le Seigneur, il a ce cœur débordant et il veut sauver tous. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le message de l'Église.
Oui.
Mais c'est vrai que on est invité à le vivre dans notre chair. C'est une invitation, ce ne sont pas que des mots. On est invité à vivre de ça dans notre vie. Et je pense que en vivant ça, en vivant je mesure mes mots parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont été victimes, il y a des gens qui sont malheureusement, qui ont un cerveau ou des choses trop douloureuses et qui font qu'ils ont une vie qui est pervertie. Mais le Seigneur laisse la chance, je sais pas, il laisse sa miséricorde, elle est pour tous, quoi.
Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler qu'en ce moment, il y a des gens qui ne sont pas arrivés là où vous en êtes, donc ils sont encore au milieu de la tempête. Et effectivement, ce rappel, c'est le fruit d'une histoire.
Oui.
Donc, les épreuves, vous les avez traversées, les difficultés, vous les avez vécues. Et cette miséricorde, cette main tendue, cette écoute, vous avez été active, parce que s'il y a une réponse, c'est qu'il y a un appel.
Ouais.
Donc, vous avez crié. Vous avez entendu. C'est déjà un enchaînement qui est déjà beaucoup de grâce. Et vous avez, c'est pour ça que c'est délicat de votre part de rappeler qu'il y en a qui sont encore au milieu du guet.
Oui.
Et il faut garder espoir. Parce que là, vous racontez l'histoire en fin de course.
Ouais.
Mais après avoir traversé, vous pourrez revenir sur le fait que voilà, vous avez rebondi et vous êtes nourri de vos enfants et vous témoignez très souvent dans les médias de ce lien, de ce que vous maintenez entre eux pour que cette force-là soit familiale, soit collective, soit rayonnante. Mais qu'effectivement, cette miséricorde, le pouvoir y goûter, c'est merveilleux et ça soigne tous ceux qui ont été abîmés et qui pensent que, voilà, comme vous le disiez...
Mais parfois, on croit que... Et c'est vrai, moi, j'ai vraiment connu le moment où, si vous voulez, j'étais à terre. Et il suffit même... J'allais dire, moi, j'ai crié, mais il suffit même d'un murmure. Il suffit même d'un souffle. Tant qu'il y a un souffle de vie, le Seigneur vient et agit. Et moi, j'ai eu ce murmure, j'ai eu ce souffle et j'ai eu ce cri... En fait, si vous voulez, je me suis mariée assez jeune, enceinte de mon premier enfant. Et donc, avec le père de mes enfants, nous avons eu 9 enfants. Et j'ai dû quitter le père de mes enfants. Donc, l'aîné, à l'époque, avait 14 ans, 13 ans et demi, 14. Et mon dernier avait 1 an. Donc, c'était assez... Et j'ai été accueillie avec tous mes enfants chez mes parents, qui ont pu m'accueillir. Donc, du coup, j'ai eu aussi un environnement très porteur.
Oui, mais il faut oser aller le demander. Donc
c'est pour ça que c'est... Et ce que vous dites, c'est juste. C'est qu'il faut oser. Et parce qu'en fait, ce qu'on rappelle, ce que j'aimerais rappeler aussi dans il n'y a pas... j'allais dire, s'il y avait une seule condition, peut-être, une seule condition, c'est notre liberté. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande de participer à sa miséricorde. C'est peut-être la seule condition, c'est-à-dire... Je ne sais même pas s'il y aurait peut-être un autre mot, mais c'est-à-dire qu'il a besoin de notre part. Mmh. Voilà, si c'est peut-être la seule condition que moi, en tout cas de ce que je peux dire de mon témoignage, de ce que je peux apporter... C'est que le Seigneur, pour pouvoir guérir, consoler, rétablir, relever, il a besoin de notre part.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie, le Libre Journal des Artisans. Nous accueillons Florence-Anne Ambroselli de l'Atelier de l'Enfant Jésus, donc atelierdenfantjésus.fr ou .com. On parle de parcours de vie et d'artisanat religieux. J'avais une question, effectivement, au milieu du guet, au milieu de la tempête. Aujourd'hui, c'est d'abord aussi une question, et je m'adresse aussi aux auditeurs qui sont peut-être dans cette situation-là. Il y a aussi la notion d'espérance, qui est l'espérance d'un jour meilleur, de passer chaque jour est une épreuve qui est passée vers une sorte de, comment dire, d'une espérance de rédemption, d'une espérance de, d'une amélioration, d'une vie qui est ballottée au fur et à mesure des embêtements qui ont l'habitude de voler en escadrille, des épreuves qui ont l'habitude de voler en escadrille.
Bah, l'espérance, vous avez raison, c'est une vertu, c'est une des plus belles des vertus, je pense. Mais quand on est dans l'épreuve, l'espérance, c'est peut-être celle la plus difficile à vivre. Oui. Est-ce qu'on la vit vraiment ? Moi, je vais vous dire, quand j'étais au plus mal, j'ai eu des moments où... j'ai aussi un tempérament, effectivement, très enthousiaste. Je suis assez positive et c'est vraiment décorrélé de l'espérance, parce que c'est important de le dire aussi. L'espérance, c'est vraiment une vertu. Oui. C'est une grâce. Et dans la souffrance, parfois, elle est telle que en tout cas, c'est pas qu'on en a plus, c'est qu'elle est, elle est cachée, elle se cache. Elle est où, cette espérance ? Moi, je me souviens que je pleurais. J'étais vide. J'étais vraiment dans un état où je me sentais extrêmement perdue. Ce qui me faisait tenir, c'était l'amour de mes enfants.
Oui.
Il y
a un ancrage.
Voilà. Et la seule espérance, si j'en avais une, à l'époque, dans des périodes extrêmement difficiles, c'était de protéger et de faire sortir mes enfants de cette situation familiale que nous vivions, qui était en fait, qui était pas saine. Je me sentais... je pourrais peut-être pas dire espérance, mais j'avais presque le mot devoir. Je me souviens que c'était très fort chez moi. Alors c'est peut-être parce que aussi le fruit de mon éducation chez mes parents, j'ai beaucoup reçu le sens du devoir, le sens de l'effort, le sens du courage. Chez nous, vous savez, quand on est l'aîné d'une grande famille aussi, j'avais tout ce poids qui était très c'était un peu
vous étiez la grande sœur.
Voilà, j'étais la grande sœur et puis il y avait toujours ce devoir, je me devais d'être un exemple. Alors en plus, je l'étais pas forcément parce que moi j'étais très artiste, très créative, très tout ce que mes parents pourront eux-mêmes témoigner de tout cette ce côté un peu fantasque que j'avais. Et donc du coup, voilà, j'avais besoin d'être toujours un peu cadrée et mes parents, et ça c'est vraiment ce que j'ai reçu de mes parents, c'était en fait tu peux et tu dois.
Oui, c'est ça. Voilà. Il y a la notion de devoir d'État, d'ailleurs.
Exactement. Et c'était donc, vous voyez, on parle d'espérance. Moi, j'étais plutôt dans une période de ma vie quand je vivais des épreuves familiales difficiles. J'avais ce devoir. Je me souviens très bien de me dire, j'ai 9 âmes à charge.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'était très fort chez moi.
Mais c'est une accroche, c'est un point d'ancrage et qui amène effectivement à ne pas flancher, en fait.
Exactement.
Et cette liberté dont vous parlez, il y a la liberté d'agir, parce qu'on pourrait dire liberté de réagir, mais c'est 9 enfants plus tard.
Ouais.
Donc on est pris par un quotidien et une difficulté d'aller chercher cette espérance et cette liberté, de la mettre en pratique. Et en même temps, est-ce que notre devoir de parent n'est pas d'apprendre la liberté à nos enfants ? Donc au moment où on est confronté à sa propre liberté... Parce que vous, c'est au vrai sens du terme, parce que vous avez été chercher, conquérir une liberté salvatrice.
Exactement, une liberté salvatrice, parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'époque, quand j'ai pris cette décision de quitter le père de mes enfants. Vous savez, dans l'Église, le sacrement, c'est le sacrement du mariage, peut vite être bafoué pour plein de raisons, et on se dit, enfin, c'est pas l'Église, c'est-à-dire que dans notre entourage peut ne pas comprendre et se dit, mais on doit tenir coûte que coûte, on doit essayer de guérir, on doit essayer de trouver des solutions, on essaye
de... très bon conseil de ceux qui ne sont pas concernés.
Voilà, exactement.
De maintenir la situation,
parce que ça renvoie à leur propre faiblesse aussi.
Oui.
Exactement, et ça pose question, parce que du coup, moi, j'ai justement, à cause de ce devoir de se dire, en fait, je me suis engagée il faut que je tienne. Eh bien, j'ai tenu tant que j'ai pu, mais en fait, finalement, j'étais très seule. Et en fait, je me suis retrouvée dans des situations inacceptables. dans des... Notre couple était devenu, en fait, notre relation avec le père de mes enfants était toxique. Nous avons connu la violence. Le père de mes enfants et moi-même donnions une image du sacrement et du mariage qui n'était absolument pas juste, qui n'était pas vrai. Et donc, du coup, notre vie de famille n'était pas du tout apaisée. Et je pense que ça, ces trois mots-là sont essentiels. On est appelé à vivre dans la vérité. L'amour passe par la justice. Et ensuite, tout ça, ça s'embrasse et ça nous apporte la paix. Alors moi, je vous dis ça maintenant avec 13 ans de...
de
ça
recul.
Fait 13, 15, 14 ans que j'ai quitté le père de mes enfants. À l'époque, j'étais dans cette incapacité de pouvoir discerner ça et de pouvoir le voir. Mais il a fallu que je sois accompagnée. Et avant de devoir... Avant de prendre le choix de quitter le père de mes enfants, j'ai essayé de respecter ce que l'Église et ce que l'Évangile nous proposait. Donc, je vais être très claire. C'est-à-dire que moi, la première fois où j'ai commencé à vivre des choses qui n'étaient pas acceptables, j'en ai parlé à une personne. D'abord, j'en ai parlé au père de mes enfants, en lui disant « ce n'est pas possible, en fait, là, on va droit dans le mur ». Puis ensuite, ce n'était pas reçu. On avait les moyens de peut-être, parce qu'on avait un environnement qui était très porteur, j'avais profondément honte. Je ne vais pas parler à la place du père de mes enfants. Tout ce que je dis, je mesure mes mots. Parce que dans ce que je vais dire, ça va être très vrai et ça va être très factuel. Et ça va être surtout sans accusation. Moi, je suis vraiment là pour parler de ce que j'ai traversé. J'ai donc du coup dû après parler à... J'ai parlé au père de mes enfants. Il l'a entendu. Il avait sa part à faire. L'a-t-elle faite ? Oui, l'histoire le dit. La deuxième... Ensuite, j'ai dû parler à une amie. Elle m'a conseillé. Elle a dit, vous avez besoin d'aide. J'ai proposé au père de mes enfants d'être aidé. Il nous fallait être aidé. Parce qu'on mettait une famille en danger. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai parlé aux parents de mon père. Ça a été reçu. Qu'en ont-ils fait ? Je fais exactement ce qui me semblait à l'époque. J'étais dans un état, je vais vous dire, j'étais à ramasser à la petite cuillère. J'étais très, très mal.
Et pourtant, l'énergie qu'il fallait pour
et
ça.
Et il me fallait, je me suis dit, Jésus nous a dit, si quelqu'un t'a fait du tort, tu vas d'abord lui en parler. S'il ne peut pas l'entendre, tu vas en parler à quelqu'un d'autre. Si l'autre ne t'entend pas, tu vas en parler à d'autres. Et ensuite, tu vas mettre ça sur la place parce que tu as besoin d'être entendu. Moi, aujourd'hui, j'ai tenté avec tout mon cœur et tout ce que j'ai pu. J'ai dit, bah voilà, moi, j'ai eu mal. Voilà ce qui se passe. J'ai mal. J'ai besoin d'aide. J'ai été voir une personne. J'ai été voir les parents du père de mes enfants. J'ai été voir la sœur du père de mes enfants. J'ai été reçue par une psychologue. J'ai essayé.
C'est en cassant l'isolement, en fait, que ça...
Et il me fallait faire ça. Et jusqu'au jour où, en fait, ce n'était plus possible. Je n'ai pas été entendue. Et donc, du coup, j'ai dû partir. J'ai dû dire, mais en fait, j'ai besoin d'aide. Et donc, je suis arrivée chez mes parents avec mes 9 enfants sous le bras. Mes parents n'étaient pas au courant. L'entourage proche du père de mes enfants était au courant. Des proches amis ont été au courant et c'est eux qui m'ont sorti en disant, Florence-Anne, il faut y aller, il faut partir. Et j'en étais extrêmement, mais meurtrie. J'étais à terre. Moi, je suis arrivée chez mes parents, j'étais la bête traquée. C'était vraiment terrible. Parce que
c'est la matérialisation on fait le deuil d'un cliché qui tombe. Quoi.
Exactement.
Et on veut être forcément dans une case de femme parfaite.
Exactement.
Et ça colle pas, alors qu'en fait, c'est salvateur, c'est cette libération dont vous parlez.
Et je précise que vraiment, j'ai dû le quitter, mais j'aimais le père de mes enfants. Donc c'était extrêmement douloureux, parce que j'ai tenté. Et j'ai essayé j'ai essayé de vouloir sauver quelque chose. Et en fait, la question que je me pose encore aujourd'hui, vraiment, alors qu'aujourd'hui, j'ai eu une reconnaissance en nullité.
Oui, c'est ce que j'allais dire, l'Église a accueilli, l'Église du coup,
ma démarche. J'ai eu une reconnaissance en nullité. Et aujourd'hui, je suis mariée avec un homme extraordinaire. Mon mari est un homme vraiment d'une bonté exceptionnelle et il a des enfants merveilleux et je suis très heureuse.
Donc, petit clin d'œil pour Guillaume.
Petit clin d'œil pour Guillaume. Et aujourd'hui, cet homme, notre mariage, ce sacrement que nous vivons, et je peux lui, il le sait, on fêtait nos 4 ans il y a 2 jours de rencontre. Et je lui ai dit avec les larmes que notre rencontre était une vraie restauration pour moi. C'était un rétablissement dans tout ce que Dieu peut faire avec une délicatesse, une tendresse, une caresse, une patience incroyable. En fait, vraiment, je vis aujourd'hui, je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais parce que voilà, la vie à deux, on sait. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Et pourquoi je fais cette petite parenthèse, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai dû quitter le père de mes enfants, et aujourd'hui, donc voilà, c'est ça, je m'interroge sur... en fait, le choix, je l'ai fait parce qu'il était vital. Et on revient sur ce que je disais tout au départ, c'est que notre Dieu, Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous sauver. Et moi, que cela, ça paraît tellement étonnant, c'est complètement un chemin que jamais on aurait pu imaginer. Mais en quittant le père de mes enfants, je suis passée par cette croix extrêmement douloureuse. J'ai cru que je mourrais, mais le Seigneur m'a fait passer par là pour mieux renaître, pour ressusciter à quelque chose de nouveau. Et peut-être que je prie pour que tous les jours, pour que le père de mes enfants puisse aussi, à travers toute cette épreuve, parce que moi, je l'ai vécu, mais lui l'a vécu et nos enfants l'ont vécu, qu'à travers cette épreuve, lui aussi puisse renaître à quelque chose de nouveau et quelque chose de très beau.
C'est un parcours de chrétien, finalement. C'est un parcours de chrétien.
Et de chemin de croix.
Et de chemin de croix. Il y a effectivement le côté difficile, le chemin de croix de quitter le père de ses enfants, de revenir sur un coup de tête et de revenir dans le cocon familial avec 9 enfants sous le bras, c'est un refuge. Et après vous avez la question de la rédemption qui est une nouvelle naissance en quelque sorte, avec la rencontre que vous avez faite et il y a 4 ans donc,
oui, il y a 4 ans.
Et une sorte de nouveau baptême en fait, une renaissance,
un peu comme vous voyez, j'aime beaucoup cette parole dans la Bible, un peu comme Nicodème, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour vivre de cet amour, pour vivre de l'esprit, pour vivre tout ça. Il nous faut renaître d'en haut, c'est-à-dire qu'en fait le Seigneur il nous sauve, et moi j'en suis tellement mais sûre. Mais pour ça, on doit, comme vous disiez tout à l'heure, écouter et accueillir, recevoir. Quel bonheur de recevoir! Et moi, j'ai eu ma part, et ma part, ça a été ce murmure, ça a été ce souffle, ça a été ce cri. Et ensuite, il m'a fallu énormément de courage pour pouvoir relire mon histoire.
Oui.
Et là, je parle vraiment de courage, parce que relire, en fait, pourquoi j'en étais arrivée là? Et qu'est-ce qui a fait que j'ai été amenée à prendre la décision à l'époque de m'engager avec le père de mes enfants? Comment, pourquoi j'ai accueilli avec beaucoup de joie chacun de mes enfants? Il m'a fallu avoir vraiment accueillir avec beaucoup d'humilité, de vulnérabilité, voir là où je n'ai pas su entendre, où je n'ai pas su écouter, où j'étais entêtée. Et en fait, mais c'est là où le génie de Dieu, c'est que le Seigneur, il aime tellement quand on vient dire, mais oui, Seigneur, je veux bien relire mon histoire avec toi. Et je suis OK avec ça. On va regarder ça tranquillement, sans pression. Et c'est là où l'Église, elle est exceptionnelle. Et c'est là où l'Église est une mère. Et une mère, vous savez, c'est les entrailles. Une mère, c'est inconditionnel. Elle aime ses enfants d'une manière inconditionnelle. Et moi, l'Église a été pour moi a été une mère qui a su s'épancher et a dit, viens Florence-Anne, on va regarder ensemble. Où est-ce que tu n'as pas... tu es partie, tu m'as lâché la main. Et puis parfois, tu es revenue. Et puis parfois t'es revenu dans mes bras, et puis parfois tu t'es échappé trop vite, et t'as, on t'a, et pourtant on t'a dit à l'oreille, on t'a dit, on t'a même parfois crié, n'y va pas, n'y va pas, et pourtant t'y allais, mais tu reviens, mais viens ma chérie, c'est pas grave, on peut reconstruire. Et ça c'est toute la beauté de l'Église, c'est incroyable l'Église, pour ça elle est fantastique.
En fait, vademecum d'une reconstruction, si on doit pouvoir donner des outils, parce que l'outil c'est important aussi dans l'artisanat, c'est d'une part un ancrage avec les enfants.
Oui.
D'autre part, le dialogue et l'épreuve de passer le dialogue, donc de s'ouvrir en fait avec son mari, avec son époux, mais aussi après de parler à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'influer sur cette question-là et de conseiller. Sachant que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Donc voilà. Et puis, comment se concrétise cette ouverture à Dieu et cette confiance à Dieu? C'est uniquement par la prière?
Non, alors justement, c'est très beau votre question et j'allais en venir. Parce que vous savez, je peux beaucoup. J'ai un vrai bonheur à partager avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Enfin, vraiment, j'essaye d'être très simple dans mes mots, mais je sais que je réponds à ce besoin de raconter, pour témoigner. Moi, je veux vraiment témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais le Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie, il l'a fait à travers les autres. Et le Seigneur, il est passé... Alors oui, j'ai prié. J'ai beaucoup prié, mais j'ai aussi parfois pas du tout prié, parce que j'étais dans une incapacité. J'étais à terre. Mais par contre, le Seigneur...
C'est pas donnant-donnant.
Exactement. Heureusement, d'ailleurs, parce que vu ce que je donne, je fais ce que je peux. Mais alors, lui, c'est débordant.
C'est
nous, c'est limité. Mais le Seigneur aime notre limite. Et c'est là où il fait des miracles.
Alors, on est ses enfants, il nous connaît. Hein.
Voilà, mais c'est en lui donnant nos limites que là, nous-mêmes, on est capable de faire des trucs. On regarde, on dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Ben si, parce que Dieu, c'est lui qui l'a fait. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est pour revenir sur le côté concret, c'est que le Seigneur est vraiment... passe par les autres. Et moi, il m'a fallu, quand je suis arrivée, donc à l'époque, en 2013, avec tous mes enfants sous le bras... Alors, comme je disais, j'ai un tempérament très enthousiasme, je suis extrêmement positive.
Non, ça ne se voit pas du tout.
Voilà, mais ça doit jouer aussi sur mon tempérament. Mais du coup, je me suis dit, OK, là, je suis à terre, c'est vraiment... j'ai besoin d'aide. Et donc, du coup, je me souviens de ma prière, j'ai dit, Seigneur, mets-moi des personnes sur la route. Ça, je m'en souviens tellement bien de dire, en fait, je suis dans une incapacité. À pouvoir moi-même choisir la personne qui pourrait m'aider. Vous savez, parfois, on se dit, j'ai besoin d'aide, mais il faut que je trouve la personne, je vais essayer de voir. Alors, on est là, on tâtonne, non, celle-là, c'est moyen, puis on revient, non, celle-là, ça ne va pas. Et moi, en fait, je ne pouvais même pas...
Il faut laisser faire le patron, quand même.
Voilà. Donc là, j'étais tellement à terre, je me souviens, j'avais les bras en croix, j'avais l'impression d'être dans la boue, quoi, et que lui, il était là, le Christ, lui-même mourant. Donc là, je me suis dit, en fait, on est deux mourants, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Et... Et en fait, tout d'un coup, j'ai eu cette espèce de... Là, vraiment, je parle d'une image un peu spirituelle, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir ce cœur, le cœur du Christ, où de l'eau et du sang jaillissaient sur ma tête. Et il me disait, en fait, laisse-moi faire.
Ben oui, il a vaincu la mort, il faut quand même que...
Voilà. Et du coup, j'ai dit, mets-moi sur la route des bonnes personnes. Et là, miraculeusement, j'ai rencontré... Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue thérapeute spécialisée, donc une psychologue spécialisée dans les traumatismes, notamment pour tous les actes terroristes. Donc,
stress post-traumatique.
Voilà, c'est ça, qui a été absolument remarquable. Je ne sais d'ailleurs toujours pas si c'est une femme qui avait la foi. Mais en tout cas, elle a su... Donc, premier point, j'ai rencontré au bout de 2 mois, on m'a mis sur la route, cette femme, grâce à mon oncle Bertrand, qui aujourd'hui est au ciel, m'a mis sur la route cette psychologue incroyable, Eva, lorsque la première séance, elle m'a accueillie, elle m'a dit « Que puis-je faire pour vous ?» Et je l'ai regardée, et je m'en souviens, je me suis mise à pleurer, et je lui ai dit « Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Aidez-moi. »
Le sujet était posé.
Voilà.
D'accord. Alors, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans. Nous accueillons Florence Anne Ambroselli de l'Atelier de l'Enfant Jésus et nous allons passer un bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je vais faire le lien avec la création.
Donc, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans. Donc, je suis Benoît Aguelon avec Benoît Duchâtelet, parce que, un, Benoît, c'est bien.
Deux Benoît, c'est mieux.
Voilà. Et nous avons Florence Anne Ambroselli de l'Atelier de l'Enfant Jésus. Donc, on parle de parcours de vie, d'artisanat religieux. Donc, on était vraiment sur le parcours de vie.
Ouais. Alors, on peut remercier Florence Anne d'abord, parce que témoignage à cœur ouvert.
C'est ça.
On parlait de l'ADN, on parlait qu'est-ce qui fait un artisan. Comment est-ce qu'il nourrit son inspiration et qui est l'artisan avant de démarrer son art? Bon, avec Florence Anne, on a bien vu.
Oui.
On a bien vu d'où venait l'ADN et ce parcours de vie, ce témoignage, ses souffrances, ses résiliences. C'est absolument, j'allais dire, merveilleux d'espérance parce que vous disiez être en croix, face à la croix. Mais justement, lui a été sur la croix pour nous sauver. Mmh. Donc, il a vaincu la mort et vous avez réussi à être emporté par cet élan de résurrection qui vous a aussi sauvé. Donc,
je vais divulgâcher un petit peu la chose. Finalement, en fait, les artisans qu'on rencontre au fur et à mesure des émissions, eh bien, ont des parcours de vie qui, au début, ne destinaient pas à l'artisanat. Mmh. Et finalement, il y a des éléments déclencheurs, qui soient personnels, qui soient violents ou pas. Qui font qu'ils investissent, qu'ils se réinvestissent dans un artisanat traditionnel, retrouver une intelligence du geste, mais aussi le fait que la main est aussi un cerveau et que on puisse recréer quelque chose autour d'un point commun qui est le bien, le beau et le vrai. Et effectivement, là, vous avez dans l'ensemble des émissions, effectivement, je crois qu'on a un des témoignages les plus forts où le fait générateur, en dehors de son histoire personnelle, c'est d'abord un parcours de foi. Et un parcours de vie.
De foi existante ou de foi qui arrive, parce que je pense à Alain qui avait rempli son art, l'église de la Madeleine, l'histoire l'a amené et à force de discuter. Avec des interlocuteurs issus du monde religieux, ça a eu un effet miroir où il s'est posé la question de la foi et ça lui a redonné une colonne vertébrale qui n'était pas la sienne.
D'ailleurs, je crois qu'on peut renvoyer les auditeurs à la chaîne YouTube et sur le site rc.fr pour retrouver notre émission avec Benoît Dutour, si je me rappelle bien.
Bravo.
Voilà. Donc, Florence Anne, parcours de vie, parcours d'espérance, de rédemption. Matérialisé après dans l'atelier d'Enfant Jésus. Ce nom, je ne vais pas demander pourquoi, parce que c'est totalement évident. C'est sous la protection d'Enfant Jésus. Qu'est-ce que l'atelier d'Enfant Jésus porte aujourd'hui et est susceptible de contribuer pour nos auditeurs et puis pour toutes les personnes
et dans une chronologie,
à produire en termes de produits, en termes d'approche et de votre création artistique.
En revenant sur la chronologie, parce que vous aviez expliqué 2004, l'accident de
voiture. Voilà, j'avais cet accident de voiture en fait où j'ai fait mon premier dessin de l'enfant Jésus roi d'amour et du coup je me suis rendu compte que Yvonne aimait de Maletroit, donc que j'ai choisi comme marraine de mon atelier, qui a eu des apparitions de l'enfant Jésus, qui était une femme incroyable, qui pendant la Seconde Guerre a fait des actes héroïques. Elle a même été décorée par le général de Gaulle à l'époque.
Pour revenir pour notre patron d'émission qui est officier de réserve, cette bonne sœur qui ne savait pas de quoi sa vie serait faite, elle ne pouvait pas se douter.
Une femme exceptionnelle. Et voilà, il y a de nombreux livres qui sont sortis là encore récemment parce qu'elle en voie de béatification. Elle a une histoire.
Ah oui, les miracles continuent.
Les miracles continuent et elle est surprenante. Moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un très proche, je me souviens qu'ils ont souvent un lien avec Yvonne Aimée de Malétroit. Elle rassemble ses amis. Malétroit, c'est en Bretagne, pour ceux qui ne savent pas.
Oui, tout à fait. Oui. Dans Morbihan, si je me trompe.
Morbihan, ouais, oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai décidé, j'ai fait ce choix de répondre à cette... Parce que, pour moi, l'atelier de l'enfant Jésus, je réponds plus à un appel qu'à un business ou l'idée de me dire, tiens, un matin, je me suis réveillée, je vais faire des imageries pieuses et je vais faire des saints patrons. Alors, c'est pas du tout mon histoire. Moi, mon histoire, c'est je réponds à un appel. J'ai entendu, j'ai pressenti. Veux-tu, à ton tour, diffuser cette miséricordieuse bonté et cette confiance en cet enfant Jésus? Et d'ailleurs, une des sœurs de Malétroit qui aurait vu mon travail, je ne fais que répéter, je pourrais lire le texto, a dit que j'étais une digne héritière du travail de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Ça m'a énormément touchée pour vraiment faire connaître cette dévotion qui est merveilleuse. Moi, vraiment, d'abord, je réponds à un appel. Et puis, donc, quand je suis arrivée en 2013 avec tous mes enfants sous le bras, à l'époque, je dessinais, mais je dessinais des petites images, je faisais des saints patrons. Alors ça, c'est vraiment ma clé de voûte. J'aime énormément les saints, parce que pour moi, les saints patrons, ça fleurit le ciel. Et puis, sur notre terre, à nous, notamment en France, et c'est pour ça que le pape Léon qui vient, et il vient parce qu'il aime les saints de France, moi, ça me touche tellement. Parce qu'on en a des nombreux saints qui ont marché sur notre terre. Et moi, je suis une fan des saints, c'est-à-dire que je dessine au plus près de l'iconographie. J'essaye à mon tour d'y mettre ma couleur, un peu d'or. Alors, je n'ai pas des règles iconographiques comme les icônes sur bois. J'adorerais d'ailleurs apprendre davantage. Mais là, il faut être très patient. Et moi, je suis quand même assez active. Mais donc, quand même, je dessine ces saints patrons à la gouache, rehaussés à l'or, calligraphié à la main. Et ça, c'est un vrai plaisir. Chaque prénom a une histoire. Chaque prénom est enraciné dans une histoire d'un saint. Et moi, je suis hyper heureuse de dessiner et d'apporter ça dans les familles, de participer à ça. Donc ça, c'est une partie de mon travail.
Et les trois étapes de la création pour revenir.
Oui, voilà. Et donc, du coup, je réponds à cet appel. Et quand je suis arrivée en 2013, bon, il m'a fallu nourrir mes 9 enfants. Parce que moi, je n'avais pas de chéquier, pas de carte bleue, pas de compte bancaire, je n'avais rien du tout. Et tout d'un coup, on me dit, j'arrive avec ces enfants et là, il fallait que je travaille. Donc j'ai eu 6-8 mois un peu où ça a été très compliqué. Donc, mon père m'a accompagnée pour ouvrir un compte bancaire. Moi, je découvrais, je ne vous dis même pas, c'était lunaire. Mon arrivée à Paris était lunaire. Et donc, il a fallu que je me mette au travail. Donc, je suis devenue, j'ai eu la chance, par effectivement mon milieu familial, travailler à l'hôtel des ventes à Drouot. Donc, j'ai pu devenir claire de commissaire-priseur dans différentes études de différentes maisons de vente. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment concret. Il fallait que je travaille. Et j'ai eu, on parlait de rencontres, comment Dieu vient nous relever aussi. Donc, j'ai eu cette partie psychologique. Et puis, j'ai eu un ami prêtre qui est le parrain de mon dernier enfant, Jean-Baptiste, et qui m'a dit « Flo, c'est bien, et il faut que tu travailles. C'est ton devoir d'État. Oui. Et tu dois nourrir tes enfants.
Ça.
Mais n'oublie pas ton appel, ce pourquoi tu es faite. » Et il m'a dit « Je t'invite à dessiner une fois par semaine. » Moi, à l'époque, j'avais même pas de site internet. J'avais un espèce de blog. Instagram, c'était inexistant. Facebook, je ne savais même pas ce que c'était. Et il me dit... donc, on parle de ça. On parle de 2014. Et il me dit, fais un dessin. Et moi, j'aime la fidélité. Et j'aime un peu les challenges. Et j'aime me dire, le Seigneur, je sais qu'il nous... Je sais qu'il est... Il récompense... Enfin, c'est même pas... On peut pas parler de récompense. Mais en tout cas, il est heureux de voir des âmes qui lui sont fidèles. Avec nos pauvretés, nos vulnérabilités. Et quand je parle de fidélité, y a des moments où on chute, y a des moments où c'est difficile, on peut pas, on fait des chemins de traverse, mais on revient. Et moi, je me suis dit, ok, je vais être fidèle à cette phrase que cet ami prêtre m'a donnée. Et donc, j'ai dessiné une fois par semaine ce dessin. Et puis, en fait, petit à petit, je travaillais énormément pour les études de commissaire-priseur. Et là, je vais vous dire, à Drou, il n'y a pas tellement d'horaires. Donc, très tôt le matin, très tard le soir, les mises en salle, les ventes, c'était lourd. Il a fallu que je sois aidée pour les enfants. Le rythme familial était extrêmement lourd. J'ai commencé à avoir des commandes. Une commande, deux commandes, trois commandes, dix commandes. Puis du coup, je rentrais le soir à la maison, je m'occupais de mes enfants. J'essayais d'être fidèle à la prière le soir. Autant vous dire que j'étais épuisée. Et puis, j'avais des commandes qui arrivaient. Et donc, je me mettais à dessiner le soir. Donc, j'ai commencé à dessiner la nuit. Je me suis acheté une lampe de jour. Alors là, ça a été une catastrophe. Parce que du coup, je ne voyais plus le temps. Donc, je me couchais à des heures pas possibles. Donc, je travaillais le jour, je travaillais la nuit. À l'époque, j'étais encore un peu jeune. J'avais 40 ans, 42 ans, 43 ans. Donc, les nuits blanches, ça passait. 44 ans, 45 ans, les années sont passées et donc j'ai essayé, c'était un peu comme une balance, j'équilibrais ça le soir, la journée, Drouot, etc. Et puis un jour, c'était plus possible. Et un jour, l'épuisement me gagnait. Et pour éviter le burn-out, il fallait tout arrêter. Et donc, du coup, j'ai décidé de me retirer des ventes, de l'hôtel des ventes. Et j'ai dit au Seigneur, je suis prête. Allez, on y va. Mais je ne mettrai jamais ma famille en danger. Je suis prête, je dis oui. Je réponds à ce qui me pressait du fond de mon cœur. Et donc, du coup, je me suis dit, j'y vais, je monte ma petite entreprise. Et là, on rentre dans l'année 2018-2019. Donc, officiellement, je deviens auto-entrepreneuse en 2019. Je monte mon premier compte Instagram en 2020. Et là, pas de bol, qu'est-ce qui arrive ?
Le Covid. Mais non, ok, pas de bol, ça devait être une opportunité.
Pas tant que ça. Parce que du coup, j'avais plus rien. J'avais pas de chômage, rien du tout.
La relation virtuelle...
Non, parce que finalement, en fait, moi, j'étais inexistante, en fait. Donc, j'avais un pauvre Instagram avec 100 abonnés. C'était naissant. Donc, j'avais une relation. J'avais des relations quand même. J'avais un bon réseau, on va dire, entre guillemets, si on peut parler de réseau. Qui était du bouche à oreille.
C'est ça,
Donc, du coup, il m'a fallu, encore une fois, me mettre à terre et de me dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta miséricorde. On va y aller. Et puis moi, j'avais vraiment cette charge familiale très lourde. Donc, je ne pouvais pas m'amuser à faire...
C'est ça que c'était un statut de salarié avant ?
Oui, j'étais salarié. Ouais. Oui.
Donc, quand il y a eu le Covid, les salariés étaient un peu tranquilles.
J'avais rien. Oui, c'est ça. J'avais plus rien.
Donc, effectivement, je comprends qu'on ressonne à la porte
c'était
en disant
là,
Seigneur, pourquoi ?
Voilà, Seigneur, pourquoi ? Mais quelle idée ! Mais j'ai été mal éclairée. Encore une fois, je me suis plantée. Voilà. Et là, d'une manière raisonnable, je me suis mise du coup à être un peu plus en freelance parce que le marché de l'art n'a pas du tout fermé pendant la période du Covid.
Non, c'est pour ça que j'espérais que ce soit.
Voilà, donc j'ai pu me remettre un peu à Drou d'une manière en freelance. Mais pareil, du coup, j'ai continué. Puis là, ça s'est déployé progressivement avec beaucoup de travail.
On a tellement envie que ça se passe comme on le souhaiterait, parce qu'on veut maîtriser, on veut être à l'aise.
Est dans la maîtrise, oui.
Le bon Dieu fait ce qu'il veut.
Ah mais voilà, exactement. Et dès qu'on essaye de maîtriser, de contrôler, en tout cas moi, le bon Dieu avec moi, il aime pas ça du tout. Moi, il me dit très clairement. En fait, si tu contrôles, en fait, tu vas droit dans le mur. Donc, généralement, c'est pilote auto. Je préfère. Maintenant, je ne prends plus aucun risque. Je lui dis, tu prends tout. Et je vais vous dire, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc, le Seigneur a beaucoup d'humour. Et je suis heureuse de lui laisser toute la place. J'essaye. Et puis j'ai tellement hâte de le rencontrer en vrai, j'ai tellement hâte de le rencontrer avec tout ce que j'essaye de semer sur cette terre pour le faire connaître et pour le faire aimer en fait. Voilà.
Mais il faut une sacrée dose de confiance en soi et de confiance envers le Seigneur pour lancer dans une entreprise en disant Seigneur. T'es mon directeur général.
C'est ça. Je pense que ça commence plutôt par une confiance en le Seigneur. Oui.
Voilà, parce que confiance en moi, pas tant que ça, je vais vous dire, j'étais assez dans un état... Et en fait, je vais vous dire, ceux qui m'ont donné confiance en moi, pareil, on revient un peu sur le côté très concret des choses, ce sont les autres. En fait, c'est cette psychologue qui m'a accompagnée, c'est ce père spirituel. J'étais très longtemps accompagnée par un carme absolument merveilleux. J'avais dit au bon Dieu, moi, je veux être accompagnée par un carme, par un moine. Par un moine qui ne voit personne, qui n'est pas connu. Oui. Je veux un homme très simple. Je veux vraiment quelqu'un de très, très pauvre, au plus près du cœur de Jésus. Et alors, du coup, on me présente un carme. On me dit, c'est exactement celui-là. Donc, c'était au Carmel de Paris. Et donc, j'ai été accompagnée par ce carme merveilleux qui, en fait, s'avère pas du tout inconnu. Il a écrit plein de bouquins et j'ai découvert très, très tard. Et j'avais trouvé ça hyper drôle. Et en fait, c'est un homme, le père Dominique Ster, qui a une sagesse incroyable. Et lui me disait tout le temps, parce que maintenant il est à Lisieux, lui me disait tout le temps, Florence-Anne, le matin. Et lui, il était vraiment dans le concret du concret du concret. Oui. Parce que moi, j'avais besoin d'être. Je suis toujours appelée à revenir un peu les pieds sur terre. Il me disait tout le temps, dès le matin, tu prends ta douche et vraiment, tu demandes au Seigneur de te laver de toutes tes souillures et de laver tout. Et ensuite, après, concrètement, tu t'assois, tu prends ton petit-déj très calmement, tu lui donnes ta journée et tu commences par écouter la parole tout en prenant ton café, tout en mangeant une tartine. Voilà, ça paraît très
sinon,
simple.
Sinon, c'est le
tourbillon
et on
voilà.
Mais c'est un éloge de la lenteur.
En fait, le bon Dieu m'apprend...
sur le bon Dieu.
Voilà.
Branché sur le bon Dieu.
Mais le bon Dieu m'apprend cette grande vertu qui est la patience. Et je pense que ce sera tout le travail de ma vie.
Oh, qui est déjà bien incarné, cette question. Oui. Alors, vous parliez de la hâte de le rencontrer. Alors, on a eu la tristesse de perdre ce saint prêtre, le père Potet, cette semaine. Et il parlait merveilleusement de son plaisir de rencontrer Dieu, mais à la fin de sa vie.
Ouais.
Donc, tranquille, Florence-Anne.
Tranquille, tranquille. Mais quand même, vous savez, le père Potet, alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ça a été donc sa perte, son départ au ciel, enfin son entrée au ciel, si on peut dire. Moi, je vais vous dire, j'ai pleuré de joie parce que je l'envie. S'il nous entend, je sais qu'il nous entend. Et je l'envie parce que j'aurais aimé être cette petite main à côté, dire, oh là, je vais juste le voir deux secondes, Seigneur, avec toi. Et puis après, je m'en vais, je retourne sur terre. Mais le père Potet a ce charisme. Moi, il m'a apporté une consolation paternelle incroyable. Il m'a vraiment... il me l'a dit, d'ailleurs. Il m'a dit, oh là là, mon enfant, ma fille, Florence-Anne, combien vous avez... Le Seigneur voudrait vous combler de sa consolation et de sa guérison. Et il a eu les bras d'un père. Voilà. Donc, ça a été une rencontre assez exceptionnelle. Voilà, ça fait partie des belles rencontres de notre vie qui participent... Vous voyez, moi, ça a été très court. J'ai eu l'occasion de le rencontrer très peu de fois, mais d'une manière très courte. Et, avec une intensité qui a participé, je peux vous dire, à mon rétablissement. Et mon rétablissement qui se vit jour après jour. Hein. Vous savez, c'est ce qu'on parle de croix, de résurrection. Mais notre vie quotidienne est une succession de croix et de résurrection. Encore faut-il accepter de vouloir vivre et consentir à cette vie dans ce sens-là. Aussi bien dans le travail, parce que vous savez, moi j'ai des clients adorables, mais j'ai des clients aussi qui parfois sont très exigeants et qui peuvent nous inviter à dire... Oh là,
et en plus, le malin aime bien titiller dans un cadre confessionnel, donc ça prend encore plus de force.
Exactement, exactement.
Mais il y a des défis qu'on relève dans le métier d'artisanat, parce qu'en fait, on ne fait jamais deux fois la même chose.
Jamais.
Et finalement, c'est... comment dire ? Il y a le côté aide spirituelle et ce qui fait marcher la chose, c'est le sentiment peut-être d'avoir retrouvé une cohérence, c'est-à-dire de j'allais dire ordo ab chao, c'est que en fait des morceaux brisés, vous avez su reconstruire et ensuite exprimer à travers votre artisanat, ce que vous avez ressenti. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est produite dans votre production, dans vos dessins et dans ce que vous réalisez.
En fait, je tente tous les jours d'exprimer ce qui anime mon cœur avec mes mains. Moi, mon outil, ce sont mes mains,
oui.
mes pinceaux. Alors, mon premier outil, c'est ma main droite, qui est extrêmement précieux. Je veux dire que j'y prends soin. Je ne fais plus de ski, par exemple. J'en ai fait très peu dans ma vie, mais je n'en referai pas. Ce que j'aime comme sport, c'est la marche. Je prends aucun risque. J'entretiens ce bel outil qui est ma main et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette main qui me permet de prendre des pinceaux, de mettre des couleurs et d'exprimer effectivement ce que je vois de Dieu dans mon cœur, en fait. Je marche beaucoup par image et en fait, je tente de... Vous savez, toute cette violence que j'ai pu traverser, ces douleurs, curieusement, dans mes dessins, je répète ce que les clients me disent, il y a beaucoup de douceur.
Oui, c'est ça.
Et il y a une sorte de, les on va dire, de doux. Candeur. On me le dit souvent, il y a une sorte de quelque chose de léger, alors que j'exprime pas du tout quelque chose de noir. Mon dessin est au contraire extrêmement, mon trait est assez souple, je crois, très coloré. J'aime beaucoup les couleurs parce que, en fait, pour moi, c'est la vie.
Oui, et tout en même temps.
Et du coup, j'essaye de mettre aussi des odeurs. Alors, du coup, je fais des bougies, je fais des savons. Et oui. En fait, j'essaye de
tous les sens en exergue.
Exactement. Et j'aimerais encore plus développer. Mon rêve, ce serait de faire un parfum. Parce que je crois profondément que tout est dans l'écriture sainte. Et le Seigneur a parlé à travers des images, à travers des paraboles. Le Seigneur a dessiné sur le sable. Il a dessiné sur la terre un poisson. On ne sait pas trop, d'ailleurs. On imagine un poisson, moi, mais avec Marie-Madeleine. Donc lui, il a pris un... En fait, on parle très peu. On ne dit pas que Jésus a peint, mais il a certainement... Voilà. En tout cas, on sait que Joseph était charpentier, donc il a aussi utilisé ses mains. Dans l'Écriture sainte, il y a tout. On sait aussi que le Seigneur parlait d'odeurs, de figuiers, de plantes, de parfums. Quand on lit le Cantique des Cantiques, c'est merveilleux. C'est une ode d'odeurs, de senteurs, de bijoux. C'est extraordinaire. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, je fais un petit bracelet avec la tête de l'enfant Jésus, roi d'amour. Ce petit bracelet, en fait, alors j'ai découvert en créant ce petit bracelet d'ailleurs avec cette petite tête de l'enfant Jésus que cette dévotion enfant Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté, d'après Yvonne Aimée de Malétroit. En fait, Yvonne Aimée de Malétroit invitait toutes ses sœurs à réciter, à répéter régulièrement, vous savez, comme la prière du pèlerin,
oui.
Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Ben là, elle disait répéter enfant Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté, enfant Jésus, hein. Et ben cette prière, en la répétant à plusieurs reprises dans la journée, elle nous évitait la calomnie et la médisance. Bah alors, c'était surtout pour la vie communautaire.
Oui, oui.
Mais je pense que pour notre vie communautaire en société, eh bien, ça peut nous rendre service. Parce que parfois, on est malheureusement, nos langues peuvent vite dévier et on peut se justifier de choses injustifiables. Et parfois, voilà.
Le Saint-Père avait demandé particulièrement pour le carême dernier, c'était l'effort qu'il demandait aux chrétiens du monde entier. La pauvreté dans le langage,
ah ben voilà.
pour éviter ce petit dérapage. Que l'effort de carême soit peut-être moins gastronomique,
ben voilà.
mais vraiment dans les mots. La pauvreté des mots pour être capable de se retenir.
Du coup, c'est pour ça que ce petit bijou, moi, là, je le porte sur moi, ce petit bracelet a beaucoup de sens. J'essaye de mettre du sens et de la valeur, j'allais dire, évangélique, ou comment on pourrait dire, dans tout mon travail. Chaque saint patron est réalisé avec énormément de soins et de prières. Alors, j'ai aucune... je dis ça, mais vraiment, en toute simplicité, mon travail, je le fais vraiment... je le fais en récitant des rosaires. Et parfois, je récite beaucoup le chapelet aussi de la miséricorde divine, que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup d'enseignements. Je travaille seule. Mmh. Donc, je fais 90%
seule. Mais alors, Florence, c'est un travail seul, mais un travail d'équipe. Parce que
voilà. avec l'aide des anges et des saints. Alors, moi, quand je termine un dessin, je le mets de côté. toujours, donc je fais en plusieurs étapes et je le mets de côté et j'aime bien quand mon imagination elle va dans ce sens, quand elle va dans les choses célestes et j'imagine qu'il y a un ange qui passe, alors c'est une tradition un peu russe, qu'il y a un ange qui passe et qui vient perfectionner mon dessin et vraiment je le dis en toute simplicité, parfois je reprends un dessin, je dis mais c'est pas possible, je me souviens pas du tout avoir fait ça comme ça hier, mais c'est très joli en fait, je le trouvais, et puis finalement le Seigneur vient rattraper, alors voilà bon ça paraît un peu, j'ai l'impression quand j'en parle comme ça, les gens qui ne me connaissent pas, ils disent « elle vit dans un autre monde ». Ce n'est pas que je vis dans un autre monde, j'ai décidé, personnellement, moi, de vivre du royaume de Dieu. J'ai envie, puisqu'il l'a dit. Il a dit « le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Moi, je suis hyper pleine de bon sens. Je lis ce que je vois, je l'ai lu, voilà, je l'ai lu dans l'Évangile, et j'ai envie de le vivre. Et on parlait des autres, ben moi, ma psy, c'est exactement ça. Quand je lui dis « je veux passer, je veux pas vivre à côté de ma vie, et ben, je veux vivre pleinement ce pour quoi je suis faite. » Donc, je prends et je reçois pour redonner après. Voilà.
Donc l'ADN, on le sent, voilà. On le touche. Et la partie technique, alors, c'est sûrement...
Oui, on va partir sur la partie technique.
On a parti, tout à l'heure, il y avait trois points. Gouache, or...
Alors gouache, alors moi je travaille essentiellement à la gouache parce qu'on me dit souvent c'est de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle. Je travaille essentiellement avec la gouache. La gouache est beaucoup plus fin, c'est beaucoup moins dilué, c'est plus précis. Voilà. Oui. Et donc ça demande un peu, ça demande une technique voilà qui est un peu plus particulière. Donc je travaille, je découvre la peinture à l'huile avec un merveilleux artiste qui s'appelle André Jude et sa femme Amandine Jude. Je vous invite vraiment à rencontrer ce couple d'artistes incroyable, avec un talent exceptionnel. Donc
merci
André, Amandine, Jude, qui voilà. Et donc moi, j'essaye de travailler un peu la peinture à l'huile, mais vraiment d'une manière. Alors l'huile et la gouache, c'est deux techniques complètement différentes. J'ai un de mes fils d'ailleurs, Amaury, qui est artiste peintre et qui lui travaille l'huile. Et c'est un de mes fils qui est un bel artiste à découvrir aussi.
Comptez sur nous.
Voilà.
Huile et gouache, parce que ce sont deux méthodes différentes, mais quand c'est votre travail d'illustration.
Mais pourquoi je vous parle de la peinture à l'huile? Parce que mon rêve, c'est quand même de mieux. On parlait de rêve aussi. Moi, mon rêve, c'est de mieux exploiter la peinture à l'huile et du coup de faire des grands sujets. Parce qu'aujourd'hui, je fais des tout petits sujets. Oui. Donc la gouache, effectivement, ça vous invite à faire des choses plus petites, oui, plus précises. Donc les saints patrons sont à la gouache. Toutes mes images sont peintes à la main. Et ensuite, elles sont numérisées et imprimées par un imprimeur parisien qui travaille sur mesure. Et je fais 80% de mon travail est du sur mesure. En réponse à l'IA, si je peux me permettre, oui, qui fait de l'horreur. Voilà, faut le dire. C'est, enfin, pour ma part...
Il se branche pas sur le même patron.
Voilà.
C'est
eh bien,
ça, c'est
voilà. J'ai fait des tentatives et d'ailleurs, je me suis dit une fois, il faut que je le filme, il faut que je montre à mes clients. J'ai donné un de mes dessins et j'ai demandé à l'IA de transformer mon dessin. Alors, c'est. Ça fait peur, c'est même assez angoissant parce qu'on se dit mais l'IA va prendre notre place en tant qu'illustrateur. Mais en fait, je crois pas du tout parce que c'est pour ça c'est beau qu'on parle d'artisanat. Parce que moi, je me suis empêchée et très tôt d'utiliser toute technique d'ordinateur, de dessin assisté, de choses de techniques, voilà, technologiques, on va dire plutôt, parce que bon, je connais pas bien. Donc moi, je ne fais que du sur-mesure, que des choses à la main. J'utilise ma main. Mon outil, c'est vraiment principal, c'est la main. Puis après, mes pinceaux, voilà.
Ça ne va pas être un choc culturel pour notre patron d'émission,
voilà.
Ça.
Non, c'est pas un choc culturel. Non, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre la main et la chose. Et effectivement, on le voit. C'est qu'on est un peu comme des pieuvres qui ont 8 cerveaux. Il y a un cerveau, et 9 cerveaux, il y en a un cerveau central au niveau de la tête, et puis il y a 8 cerveaux dans les tentacules.
C'est drôle ce que vous dites, parce que je rigole, je vous coupe, parce que mon surnom c'est Poulpe.
D'accord.
Voilà, pour les intimes. Et là, c'est les gros, les très très les intimes.
Fort, hein, mais...
C'est Poulpe. Je crois profondément à la force et à la grâce du travail de la main.
Ouais. Mais ce qui permet en fait de travailler, de continuer à travailler et de faire autre chose à côté, et notamment de prier.
Par exemple, tout à fait.
Et finalement, en fait, on rejoint la chose, c'est qu'en quelque sorte, le travail aussi est une prière. Donc,
alors là, moi, pour le coup, mon travail est vraiment, en plus, comme il est vraiment au service de, au service de l'Église catholique, c'est vrai que oui, oui, ça m'invite à ce que... Et moi, je vais vous dire, en fait, à partir du moment où j'ai dessiné, j'ai préparé mon dessin et je l'ai... Alors, les saints patrons sont encadrés. À partir du moment où j'ai fait mon encadrement, où je prépare mes colis, c'est des détails, mais un saint patron, ça me demande énormément d'heures de travail. Parfois on me dit ah là là ça peut c'est un prix, mais c'est du travail de mes 10 doigts. Donc je n'ai pas quelqu'un qui fait mes emballages, je n'ai pas quelqu'un qui encadre et je n'ai pas quelqu'un qui va faire la petite main à côté, qui va faire de l'or ou voilà.
Neuf enfants, c'est bien la peine.
Voilà c'est ça. Ah bah donc, alors... je rêverais qu'un de mes enfants m'aide, mais pour le moment c'est pas encore en projet. Mais j'y pense parce que j'aimerais aussi transmettre ce que je fais. Ça fait partie aujourd'hui de mes questionnements pour voir parce que je trouve ça beau de transmettre.
Mais vous transmettrez que partiellement.
Oui.
Parce que.
Mais ils mettront leur couleur, mais j'aimerais. Ouais, j'aimerais que à mon
c'est
tour.
Votre ait... histoire, c'est...
Voilà.
Regarde l'encadrement, la dorure, ça ouais. pourrait être des choses déléguées.
C'est vrai.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, des choses complémentaires. J'avais, voilà. J'avais une question qui. Va s'échapper presque là. Comment dire les projets. Vous êtes utilisez une documentation. Vous avez pour dessins.
Ah oui, je pense, oui, complètement.
Je pense à des saints Saint-Médard, Saint-Ouen. Vous utilisez quand même.
Alors je n'ai pas encore réalisé Saint-Médard et Saint-Ouen. Donc là vous me posez une colle.
Je ne serais pas capable de
vous dire son iconographie. Mais par contre, en revanche, je m'appuie. Et d'ailleurs, il y a des clients charmants qui m'appellent et qui aimeraient,
sanctifier un prénom.
Sanctifier un prénom, ça c'est assez régulier. Ça va pas être possible. J'ai pas pouvoir l'inventer et j'ai pas pouvoir le sanctifier moi-même. J'en ai pas encore le droit.
Mais c'est surtout irlandais.
Certainement, je l'ai pas encore réalisé. Pourtant, j'en ai fait, je pense 700, 800, 800 saints patrons, voilà. Mais par contre, j'ai surtout des gens charmants qui m'appellent. Et qui aimerait, par exemple, Sainte Adèle, qui est bénédictine. Les vêtements de la bénédictine, elle est noire et ça plaît pas du tout. Et ils aimeraient qu'elle soit plus colorée, plus joyeux entre guillemets. Et ça, c'est compliqué d'expliquer à mes clients avec beaucoup de délicatesse que ça va pas être possible de changer certaines couleurs. Il y en a pour certains, je peux être un peu plus fantasque et plus créative, mais il y en a pour d'autres, ce n'est pas possible.
Bah, Saint-Benoît, on n'a pas envie de voir autre chose que...
Voilà, par exemple,
un peu
Saint-Benoît,
de marron avec un corbeau noir.
Voilà,
hein.
C'est
oui,
ça.
Tout à fait,
donc,
oui.
Mais l'environnement apporter.
Voilà, alors du coup, j'essaye d'apporter à côté. Donc, généralement, le personnage, je respecte vraiment bien l'iconographie que nous enseigne l'Église. Et puis ensuite, que nous transmet l'Église, en tout cas, la tradition. Et puis ensuite, à côté, généralement, du saint patron, je rajoute quelques éléments qui résument, entre guillemets, un peu l'histoire du saint. Mais c'est très, très compliqué parce que, alors, je ne vous dis pas, les saints ont des vies complètement fantastiques, merveilleuses. Voilà, et puis voilà. Non, c'est vrai que c'est
mais si on vous demande une Sainte Solange, vous le faites quand même avec la tête sous le bras.
Je serai obligée de trouver des solutions pour que ça soit quand même agréable à regarder. Voilà, pour que ça soit pas non plus pour que la personne qui reçoit ça puisse prier devant. Moi, ce que j'offre dans mon travail, je veux que les gens ça soit pas décoratif. Vous voyez, moi, je veux que mon travail soit une invitation à rencontrer le Christ. Et c'est pour ça que je suis très heureuse et je suis comblée de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que dans l'Église, on sait que Jésus se rencontre dans les sacrements. Et moi, je participe par mon travail célébrer ces sacrements. Et donc, du coup, je participe à pouvoir éventuellement peut-être rencontrer Jésus.
Donc c'est objectif, c'est magnifique. Ben justement, objectif, inviter à rencontrer le Christ par la création, par votre création. Et actualité, pas sortir de la gouache pour développer aussi les grandes œuvres à l'huile.
Je rêverais, alors ça c'est vraiment mon rêve, c'est je rêverais de faire des grands sujets. Mes enfants me le disent, alors vous savez, moi j'ai mes 9 enfants qui sont aussi très créatifs. Et donc j'ai un fils qui est artiste peintre qui lui fait des très beaux sujets. J'ai une fille qui est dans la céramique qui fait aussi des très grands sujets. Étonnamment, eux font des grands sujets. Et ils me disent, maman, mais arrête, il faut que tu fasses du grand.
Dimension.
Voilà, il faut du grand et l'église peut-être. Voilà, alors je sais qu'il y a de très grands artistes et déjà des beaux artistes qui offrent à l'église leur talent. Enfin, ils offrent Frison Roche qui fait du très beau travail. Moi, je c'est un appel. Peut-être que si un curé
c'est
de paroisse,
de 9 enfants, hein.
Voilà, c'est ça. Si c'est peut-être ça. Une paroisse, un évêque, je sais pas, ont envie de tenter l'aventure avec moi et
une
de
dessiner
une chapelle pour que je dessine un grand sujet, soit des saints patrons. Je pense, vous savez, les églises à Bayonne, dans le Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, c'est extraordinaire, les petites chapelles avec tous ces grands saints patrons. Je sais pas si vous voyez.
Ah bah, Saint-Jean-Baptiste, rue Gambetta, oui, bien sûr.
C'est extraordinaire. Et moi, je suis. Et tantôt, je suis là. Je dis, mais je rêve de faire la même chose dans nos églises qui parfois sont vides, ou alors on a laissé des œuvres souvent après-guerre qui sont très qui n'ont pas de sens, enfin pas de sens dans le sens où qui sont très abstraites. Et aujourd'hui, on revient à l'évangélisation par l'image
et au figuratif.
Et au figuratif.
Chers auditeurs, vous avez compris quand même que Florence Anne avait répondu à un appel dans son parcours professionnel, personnel, et là, c'est maintenant elle qui nous lance un appel. Donc, vous avez toute liberté de pouvoir prendre contact avec la radio. Ou elle directement.
Voilà, donc sur Radio Courtoisie, vous êtes sur le Libre Journal des Artisans. Nous avons les dernières minutes d'un échange qui est très riche et très, comment dire, rayonnant.
Merci.
Enrichissant.
Avec Florence Anne Ambroselli et l'atelier de l'Enfant Jésus, tout attaché, .com.
On peut parler un peu de chiffres. Vous avez parlé de 700 œuvres.
De saints patrons. Alors, je sais pas combien de saints patrons. Je dis 700, j'en sais rien. Faudrait que je compte. Mais en tout cas, je suis dans ce chiffre à peu près là. Les imageries pieuses, j'ai plus de 200 modèles. Je fais des bougies. Alors, les bougies, c'est par étapes parce que tout ça, c'est quand même un budget.
Il faut investir.
Ça, et donc, moi, j'ai toujours ce devoir d'État qui m'appelle à toujours, en fait, ne jamais
prendre un risque
pour la famille. Le Seigneur m'invite à réfléchir toujours pour savoir si c'est la bonne chose à faire. Et puis j'ai un mari qui m'aide, qui me soutient énormément et qui m'aide à comprendre les chiffres.
On parlait de Guillaume rapidement tout à l'heure,
mais qui m'aide énormément. Exactement, il est concerné. Et voyez, on aurait rêvé peut-être un jour d'avoir un enfant ensemble. Et ben l'enfant Jésus, c'est ce qu'on essaye de faire grandir ensemble. Et c'est notre petit bébé, mon dixième enfant entre guillemets. Et Guillaume l'a adopté comme il a adopté chacun de mes enfants, et particulièrement l'enfant Jésus pour le faire grandir. Et puis après, effectivement, j'ai les savons aussi que j'ai déjà 10 parfums bien précis. Et puis
parlez de parfums, vous cherchez une fragrance aussi peut-être.
Oui, et ça, parfum, ça serait mon rêve de faire un joli parfum pour les enfants, un parfum même. Un parfum de d'ambiance ou un parfum pour les enfants qui veulent
parfum d'oratoire
pour avoir parfum cette d'oratoire. Pour se balader avec une odeur de sainteté. Voilà.
C'est ça.
Alors
c'est
peut-être ça. Que Sainte Thérèse va rentrer dans la boucle.
Ouais, exactement, peut-être Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, d'ailleurs, c'est un de mes premiers savons, ça a été Sainte Thérèse et Notre-Dame de Guadeloupe d'ailleurs à la rose, parce que la rose c'est un parfum que les gens aiment beaucoup.
D'accord, mais vous sortez un petit peu d'artisanat.
Oui.
Avec des œuvres réplicables,
oui,
peut-être.
Oui.
Vous faites
mais
pas
je travaille avec un savonnier, artisan savonnier. Je
travaille
qu'avec des artisans.
D'accord.
Un artisan savonnier et un artisan pour faire couler la cire. Que
d'accord.
Des tout petits artisans. Moi, et tout ça fait en France. Voilà.
Oui.
Donc, quand on j'invite alors, c'est vrai que tout ça, c'est un coût. C'est un vrai coup, mais...
Oui, parce qu'il faut un volume,
mais
faut
n'a
une
pas
collection...
Mais ça n'a pas de prix, parce que faire travailler des artisans français, c'est un cadeau que l'on fait non seulement à soi, mais aussi pour notre cher pays.
Oui, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y en a de moins en moins.
Ouais.
Et, c'est exigeant. Et lorsqu'il y a un certain volume, eh bien, on se tourne beaucoup vers des grands donneurs d'ordre plutôt que des petits artisans qui font appel à des artisans qui rêvent de faire des grands volumes.
Ouais.
Donc, pour les artisans viticoles, on disait que boire un canon, c'est sauver un vigneron. Là, on peut effectivement aller retrouver Florence Anne et avoir un bout du ciel qui, comme ça, vous
voilà,
est offert.
Sur Atelier de l'Enfant Jésus.
Et pourquoi je vais juste peut-être un peu comme ça terminer sur ça pour l'artisanat. Moi, j'aime le côté unique et c'est toujours pour répondre à cette... À cet appel profond et évangélique qui nous dit tu as du prix à mes yeux et je t'aime et tu es unique. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime dans l'artisanat, c'est que chacune de mes œuvres est unique, chacun de mes saints patrons est unique. Alors, il y a quand même une base, hein, évidemment, parce que je ne peux pas redéplier. Voilà. Mais il y a. J'y mets une part, j'y mets de moi à chaque fois, et j'ai l'impression de laisser Dieu passer, en fait, à chaque fois, de mettre une part aussi de ce que je crois et de ce qu'est Dieu, et voilà, c'est pour moi aussi, c'est ça pour moi l'artisanat.
Alors je moi, j'ai une foi moins flamboyante. Comment ?
Il n'y a plus rien à rajouter.
Il n'y a plus grand-chose à rajouter, oui. Il y a une part moins flamboyante, mais moi, je parle de charge émotionnelle, effectivement, de ce qu'un artisan produit à ce niveau-là. Donc voilà, il nous reste quelques secondes. Donc nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Florence Anne Ambroselli de l'Atelier de l'Enfant Jésus, donc atelierdenfantjésus.com.
Oui.
Donc vous pouvez aller regarder, voir ses œuvres, la contacter. Pour nos auditeurs parisiens, elle est basée en région parisienne à Boulogne-Billancourt.
Oui.
Donc vous pouvez, y compris sur tous les réseaux, la solliciter. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Florence Anne, merci.
Avec joie, merci.
Merci
de m'avoir accueilli.
Merci Benoît. Et puis à la semaine prochaine.
À très vite, chers amis auditeurs.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aglon et Benoît Duchâtelet, émission préenregistrée le 22 mai 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 23 mai de 19h30 à 21h, et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016 Paris.